Nous lisons dans Jean, au chapitre 20, Jean, chapitre 20, à partir du verset 24. Jean, chapitre 20, à partir du verset 24. Il est écrit ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'est-à-dire lorsque Jésus est ressuscité, Thomas n'était pas avec eux quand Jésus leur est apparu. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors il y a Thomas qui n'a pas assisté à l'apparition de Jésus au milieu des apôtres. Jésus ressuscité, revenu à la vie. Lorsqu'on lui annonce ça, il dit, « Mais je veux moi-même toucher pour croire. » Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il exige de voir les trous dans les mains du Seigneur et d'avoir le trou sur le côté. Alors que lorsque nous pensons à la résurrection, nous considérons dans notre tête que quand on est ressuscité, on doit avoir tout rétabli dans notre corps. Alors, comment se fait-il que Thomas a eu l'idée de réclamer une imperfection dans le corps d'un ressuscité? Parce que quand nous lisons la parole, la résurrection, c'est la réparation de tout. Donc lorsque nous étions même aveugles, nous avions une quelconque infirmité, le jour où nous allons ressusciter, il n'y aura plus ça. Mais Thomas réclame les blessures dans un ressuscité. C'était une sorte de prophétie que Thomas avait faite, une sorte de manifestation de la parole de Dieu en Thomas. Comment pouvait-il réclamer qu'il y ait des trous encore? C'est que ces trous-là avaient une importance. Les trous dans les mains du Seigneur, c'est par ces trous-là que le sang a coulé. Et le point sur le côté, c'est par là aussi que l'eau et le sang ont coulé. Et c'est ce sang qui purifie et c'est ce sang qui sauve. Et Thomas a dit, je veux voir les trous. Et quand Jésus apparaît, il montre les trous à Thomas et dit, voilà les trous. J'ai toujours les trous parce que ces trous-là, on en a déjà parlé, c'est les marques de la victoire du Seigneur. C'est par ces trous qu'il a triomphé, parce que c'est par ces trous que le sang coulait. Les pieds percés de Jésus, le poing sur le côté, ce sont les marques de sa victoire. Dieu a tant aimé les humains, c'est ça notre thème d'aujourd'hui, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Ça, c'est la prédication directe du Seigneur lui-même à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit à Nicodème, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus, avec son sacrifice, est la démonstration de l'amour de Dieu pour tous les humains. L'amour de Dieu a été manifesté par le sacrifice de Jésus. Vous savez, dans le monde, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui disent qu'ils vous aiment. Ils peuvent même vous faire des poèmes. Ils peuvent vous acheter parfois des bijoux, mais ça reste que des paroles. Il y a des gens qui peuvent même vous applaudir. Mais le véritable amour, ce ne sont pas les paroles. D'ailleurs, il y a dans 1 Jean 3, 18, c'est écrit, « Bien-aimé, n'aimez pas seulement en paroles. » Les paroles ne sont pas mauvaises, mais elles ne traduisent pas forcément le véritable amour. Quelqu'un peut sortir de belles paroles, quelqu'un peut dire nous sortir des compliments. Il ne s'agit pas forcément d'une attestation de l'amour véritable. L'amour véritable, c'est plus que ça. Donc il y a des grands discoureurs. C'est pourquoi il est écrit là, Dieu a tant aimé le monde, c'est la parole. Mais à la différence de grands théoriciens et discoureurs, il est dit qu'il a donné son fils. Il en a fait la démonstration. Dieu a tant aimé le monde et il fait la démonstration, il donne son fils. Il laisse son fils crucifié à la croix. Il laisse son fils souffrir à la croix. Il laisse le sang de son fils couler pour l'humanité. Donc, à la différence de grands discoureurs, de grands théoriciens, de gens qui sont sans cesse à dire « J'aime le Seigneur, j'aime mes enfants, j'aime mes parents. » Il y a beaucoup de grands discoureurs comme ça. Mais quand on voit dans les actes, on dit « Mais il y a un problème. » Si vraiment il aime ses enfants, si vraiment il aime sa femme, si vraiment il aime son mari, mais de telles choses ne peuvent pas se faire. Il y a les discours, mais il y a la réalité. Et la Bible est claire. Dieu n'est pas resté dans le discours. Il a dit, il s'est écrit, Dieu a tant aimé, et il a donné son fils. Souffrir. Afin que l'humanité soit sauvée. Il y a des gens aussi, parce que, qui font des actes, qui ne s'arrêtent pas aux paroles, mais qui font aussi des actes. Mais ce sont des actes, en réalité, qui leur servent eux-mêmes. C'est-à-dire, ils manifestent bien. Ils produisent des actes, entre guillemets, d'amour, d'attachement à quelqu'un ou à Dieu, mais en réalité, c'est pour eux-mêmes. Il y a des parents qui font du bien à leurs enfants, mais c'est en quelque sorte pour eux-mêmes qu'ils le font. C'est pour leur honneur. Ce n'est pas vraiment pour le bien de l'enfant à 100%. Au début, on ne s'en rend pas compte parce que c'est des actes qui ressemblent à tous les actes d'amour. Mais à un moment donné, il y aura des éléments qui vont nous faire comprendre que ce parent-là s'aime lui-même à travers son enfant. Un jour, l'enfant va vouloir faire la biologie et le parent va dire « Non, moi je veux que tu fasses ingénieur. » Mais l'enfant dit « Mais moi je suis apte à telle chose. » Oui, mais tu peux forcer. Donc c'est le genre de parents qui peuvent même prendre des professeurs, payer des professeurs, dépenser. Mais en réalité, ils s'aiment eux-mêmes à travers l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qu'ils aiment, parce qu'ils ne laissent pas l'enfant s'épanouir selon les capacités de l'enfant, selon les désirs de l'enfant. Mais ils veulent voir l'enfant produire des choses en leur faveur. Mais quand tu es à l'extérieur, au début, quand l'enfant a 1 an, quand l'enfant a 2 ans, tu le vois, tu le vois pas. Quand l'enfant a 10 ans, tu le vois pas. Viendra certains instants de la vie qui nous feront comprendre qu'en réalité, ce parent-là, ce n'est pas l'enfant qu'il veut aider, ce n'est pas l'enfant qu'il aime vraiment à 100%, mais c'est lui-même. Donc, il fait des actes, il fait des choses pour lui-même, mais ça passe par l'enfant, puisque l'enfant fait partie de lui en quelque sorte. Et comme l'enfant fait partie de lui, c'est comme quelqu'un qui embellirait sa maison. Ce n'est pas qu'il aime forcément la maison, mais c'est lui-même qui l'aime. Et sa maison fait partie de lui. Et donc, quand c'est le genre de personne qui fusionne avec les choses, avec la maison, avec son travail. Et on a l'impression au début qu'ils aiment ce qu'ils font, mais en réalité, ils se sont identifiés aux choses. Ils se sont identifiés à leurs enfants, ils se sont identifiés à leur mari, à leur femme. Ce n'est pas le véritable amour. Donc, c'est quelque chose qui revient à eux-mêmes. Donc, c'est leur propre avantage, mais qui passe par leurs enfants, qui passe par leur famille. Et au début, nous croyons qu'ils aiment, mais le jour où cet enfant, ou ce mari, ou cette femme va prendre une direction qui n'est pas conforme à leurs attentes, nous allons voir une haine sortir qu'on ne va pas comprendre. On va dire, mais ce n'est pas possible, c'est la même personne qui aimait ses enfants, qui aimait ses parents, mais voilà qui sort une telle haine. C'est parce que les choses ne se passent pas comme la personne veut. Donc, quand elle manifestait l'amour, tant que son mari, tant que sa femme faisait comme lui, il voulait, comme elle voulait, on avait l'impression que c'était la fusion totale. Tant que les enfants faisaient sa volonté, on avait l'impression que c'était la fusion totale. Mais le jour où les choses ne se passent pas, ou bien tant qu'un ami, un collègue faisait comme lui l'entendait, il n'y avait pas de problème. Mais le jour où on le contredit, le jour où on ne fait pas comme lui l'entend, c'est là qu'on va comprendre que ce n'était pas le véritable amour. C'était une sorte d'harmonie. Tant qu'il y avait l'harmonie, donc ça donnait l'impression que la personne aimait. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de l'harmonie, c'était une convergence d'intérêts. C'était une convergence d'intérêts. Donc beaucoup n'aiment pas. Au fait, ils sont dans une convergence d'intérêts. Et quand je dis n'aiment pas, je suis en train de parler du véritable amour. Je ne dis pas qu'ils sont secs, ils n'ont pas du tout d'amour. Je dis tout simplement qu'ils ne sont pas dans le véritable amour, qui est sans intérêt à 100%. C'est l'amour de Dieu. C'est écrit, Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a donné son fils. C'est sans intérêt. Parce que Romains 5 nous dit quoi? Romains 5. Romains 5, à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on peut commencer à partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu. Comment ? Par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit s'appuie sur quoi? Sur ce qui suit. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Paul tranquillise les enfants de Dieu. Il dit, mais lorsque vous étiez mauvais, lorsque vous étiez méchants, Dieu a laissé son fils être crucifié pour vous, par amour. Mais maintenant qu'il vous a sauvé, croyez-vous qu'il va vous abandonner? Notre prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous révèle, Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez pourquoi je prie comme ça? Quand vous lisez dans la Bible, vous vous rendez compte que Jésus n'a jamais prêché ça en public. Il a dit à Nicodème, c'est tout. ce verset que je suis en train de vous lire, Jésus a dit ça en particulier quelque part. Il n'a pas prêché ça en public. C'est quelque chose que le Saint-Esprit doit faire comprendre à quelqu'un. C'est pourquoi j'estime que mes paroles sont peu importantes. Ce qui est important, c'est l'action du Saint-Esprit. Et qui a proclamé ce que je suis en train de dire là? Ce sont les apôtres qui ont parlé de ça. Mais Jésus lui-même savait que c'est quelque chose qui était un mystère. Que cet amour est tellement grand que Dieu seul peut te faire comprendre ça. Parce que nous n'avons pas d'exemple autour de nous qui ressemble à ça. Beaucoup de choses nous comprenons parce que nous avons des exemples autour de nous. Mais cet amour de Dieu est si grand que seul Dieu peut te faire comprendre l'immensité de ça. Et c'est pourquoi Jésus n'en a pas parlé. Il parlait de l'amour de Dieu, mais il n'a pas parlé de cette prédication qu'il fait à Nicodème. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a dit qu'à Nicodème. Et il a dit à ses apôtres, à un moment donné, il a dit que le Fils de l'homme doit souffrir. On doit le crucifier afin que le monde soit sauvé. Il a dit, et à Nicodème et à ses apôtres, c'est tout. Mais il y a une personne à la croix qui a compris ça lorsqu'il a vu Jésus être crucifié. Il s'est dit, mais je ne comprends pas comment celui qui est le Tout-Puissant, celui qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, celui qu'on a cherché à tuer à plusieurs reprises, on n'a pas réussi à le tuer parce qu'il disparaissait. Mais comment il peut se retrouver à la croix? Il y a un problème. C'est cette contradiction-là qui a réveillé cet homme. Il a dit, Jésus est le Fils de Dieu. S'il est à la croix, c'est pour me sauver, moi. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Donc, beaucoup de gens manifestent des bons actes. Mais c'est par intérêt, par logique de convergence. Tant qu'on va dans la même direction avec eux, ça va. Le jour où nous n'allons plus dans la même direction, le jour où on fait il y a un impair, il y a un couac, ils changent de position envers nous. Ce n'est pas du véritable amour. C'est un amour de convergence. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Et c'est ça le problème qu'on rencontre dans les mariages aujourd'hui. Les gens attendent que tout se passe comme ils veulent. Le jour où ça ne se passe pas comme ils veulent, l'autre devient un ennemi. C'est un amour faux, un amour égoïste, un amour de convergence. Ici, c'est écrit, le Seigneur a laissé son Fils à la croix alors que nous étions ses ennemis. C'est écrit, c'est pas moi qui dis, Romains 5, verset 8, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, alors que nous étions ennemis, considérés comme ses adversaires, Dieu a laissé son Fils être crucifié pour nous. C'est pourquoi quelque part Jésus dit, mais si vous aimez seulement ceux qui vous font du bien, il n'y a pas grand-chose que vous avez fait là. C'est juste, voilà, normal. Mais il faut aimer ses ennemis. Il faut aimer ses ennemis. Il faut faire du bien à ceux qui nous persécutent. C'est ça l'amour de Dieu manifesté à la croix. Il l'a fait en faveur de ses ennemis. Et certaines personnes font, parce qu'on a parlé d'abord des discoureurs, des théoriciens, qui parlent beaucoup mais qui ne font rien du tout. Ensuite, nous avons parlé des gens qui font des actes d'amour, mais dans l'esprit de convergence. Tant que les choses vont bien, tant que vous avez les mêmes idées, tant que vous ne les contredisez pas, là, ils vont sourire. Là, ils vont être gentils. Là, ils vont faire des actes d'amour. Mais le jour où vous le contredisez, le jour où vous échouez, le jour où vous n'êtes pas à la hauteur, le jour où ça ne va pas ensemble, vous allez voir leur attitude changer. Et parfois, ça nous arrive à nous-mêmes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas le véritable amour. Le Seigneur a aimé les gens avec qui il était en contradiction. Parce que l'amour de Dieu, c'est celui-là. Mais il y a aussi des gens qui nous font des actes d'amour pour nous piéger. Ils nous font de bonnes choses parce qu'ils veulent profiter de nous. Ils nous font de bonnes choses parce qu'ils veulent nous amener quelque part. Ils veulent nous manipuler. Et ça, ce n'est pas non plus de l'amour. Il y a des parents même qui font des actes d'amour parce qu'ils veulent manipuler leurs enfants. Quand on veut amener l'enfant dans telle direction, on lui achète telle chose. Quand on veut lui inculquer quelque chose, on lui achète d'abord quelque chose. Ce n'est pas de l'amour, bien-aimé. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ à la croix. L'amour où on fait des choses parce qu'on attend quelque chose en retour, parce qu'on veut amener les gens quelque part, ce n'est pas le véritable amour. Le Seigneur, il est écrit, fait la démonstration de son amour par le sacrifice de son Fils à la croix. La démonstration est là. Maintenant, les gens qui disent, mais je ne me sens pas aimé par le Seigneur, vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Voilà la question. Vous voulez qu'il fasse quoi de plus? Quelqu'un va me dire, oui, mais tu m'achètes une maison. On continue. Entre t'acheter une maison et laisser son fils crucifié à la croix pour toi, qu'est-ce qui est plus grand? Toi-même réponds. Il y en a qui vont dire, mais oui, mais s'il m'aime, je veux être guéri de ma maladie. On continue. Entre la guérison de ta maladie et le sacrifice de Jésus à la croix, qu'est-ce qui est plus difficile pour Dieu? C'est le sacrifice de son Fils à la croix. Essayez, bien-aimés. Essayez de sacrifier votre enfant pour les autres. Dieu a sacrifié son Fils. Tu dis que tu sens pas que Dieu t'aime. Parce qu'en quelque sorte, tu veux que les gens te disent qu'ils t'aiment. Mais les gens peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Dieu, lui, l'a fait la démonstration. Il a donné son Fils à la croix pour toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est-à-dire que Dieu a mis la barre en haut. Il a fait l'acte le plus grave qu'on puisse faire, le plus important qu'on puisse faire pour manifester son amour. Il a donné son Fils unique. Maintenant qu'il a fait ça, qu'est-ce que tu veux? Oui, peut-être que tu aurais voulu naître, voilà, mesurer 1m95. Mais entre mesurer 1m95 et l'amour de Dieu manifesté par la crucifixion de son Fils à la croix, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Ce qui est difficile, c'est regarder son Fils. On est en train de cracher sur lui. On est en train de mal lui parler. On est en train de l'injurier. On est en train de le crucifier. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu dis que tu ne peux pas faire quelque chose. Ça te donne l'impression que toi-même, tu deviens méchant. Mais c'est par amour pour les autres. C'est par amour pour les humains. Donc, Dieu Tout-Puissant, regardez des petits hommes injurier son Fils. Il regardait des petits hommes dire n'importe quoi. Les anges auraient voulu intervenir, mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient reçu aucun ordre. Entre ces spectacles-là et ce que toi tu réclames pour réaliser l'amour de Dieu, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus grand? Tu veux pour réaliser l'amour de Dieu que les gens, les humains te le montrent. Mais comme nous venons de le dire, il y a des discoureurs. Il y a des gens qui font les choses par convergence. Il y a des gens aussi qui font des actes d'amour parce qu'ils veulent nous amener quelque part. Ils veulent nous manipuler, ils veulent nous piéger, ils veulent nous gérer. Mais Dieu n'a pas voulu te gérer. Il a donné son Fils. Vous savez, quand on donne, on oublie. Il a donné. Après, il te laisse le choix d'accepter ce cadeau ou pas. Mais il a donné son Fils à la croix pour toi. Afin que tu sois pardonné. Au lieu que toi, tu sois condamné, son Fils a été crucifié à ta place. Qu'est-ce que tu veux de plus? L'acte de Jésus à la croix, c'est l'acte supérieur d'amour. C'est l'acte supérieur d'amour. Devant cet acte, Satan est sans force devant nous. Parce qu'il a beau nous accuser, Dieu va lui dire, mais j'ai sacrifié. J'ai sacrifié. Mon Fils pour les humains. Et aujourd'hui, un tel croit à mon Fils. Il m'appartient désormais. C'est pourquoi il est écrit, vous ne vous appartenez plus parce que vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Ceux qui croient en Jésus appartiennent à Dieu. Personne ne peut plus les toucher. Parce qu'à chaque fois que Satan veut les toucher, le Seigneur dit, mais non, mais attends, j'ai déjà livré mon Fils pour eux. Tout ce que tu leur reproches, mon Fils a déjà payé pour eux. Et tu t'imagines la souffrance que j'ai eue pour avoir, pour voir ces gens sauvés. Aujourd'hui, tu veux me ramener en arrière. Va-t'en, Satan. Et il fuit. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. L'amour de Dieu manifesté à la croix, c'est le plus grand acte d'amour. Et dans cet acte, bien-aimé, il y a une production après. C'est une semence. Jésus a été livré. Et c'est cet acte qui produit le salut. Les prédications que nous faisons, ce sont de petits compléments. En réalité, qu'est-ce qui sauve les humains? C'est l'acte de Jésus-Christ accompli à la croix. Cet amour est productif. Il faut qu'on comprenne ça, bien-aimé, une fois pour toutes. Quand Jésus a été crucifié, il a dit « Tout est accompli ». Et quand il nous demande de prêcher, il dit, allez leur annoncer que c'est fini. Tout est accompli. Les gens qui sont de Dieu vont comprendre. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne vont pas comprendre. Donc, son acte à lui suffit pour sauver l'humanité. Notre prédication n'est qu'une mise en pratique de ce que lui a accompli à la croix. Mais il a déjà accompli, c'est fini. C'est pourquoi nous devons témoigner. C'est ce témoignage-là qui nous fait entrer maintenant dans la victoire. Mais la victoire a été acquise à la croix. L'amour de Dieu a été si grand que rien ne peut empêcher la volonté de Dieu désormais de s'accomplir au milieu des humains. C'est ça le véritable amour. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'on saisisse cela et qu'on soit heureux, qu'on soit dans la paix. Qu'on saisisse que Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié pour nous à la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Parce qu'il a pris tout le péché à la croix, il a été crucifié à cause de cela. Il a vaincu Satan. Désormais, un enfant de Dieu doit être dans la joie de savoir que Jésus-Christ a été crucifié pour lui. Et l'apôtre dit, nous avons la paix dans Romains 5. Il dit, au verset 5. Or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Donc nous devons être à la joie. Le Seigneur a été crucifié pour nous. Il y a des gens qui seront là à dire, mais oui, je veux bien être dans la joie, mais mes problèmes sont là. Je suis au courant de ce que Jésus a fait pour moi, mais mes problèmes sont là. Bien-aimé, est-ce que tu es vraiment au courant? C'est ça la question. Est-ce que tu as vraiment accepté ce qui s'est passé à la croix? Vous savez, il y a un homme qui ne l'acceptait pas. Il s'appelle Pierre. Pierre ne voulait pas accepter que Jésus meure à la croix. Pour lui, c'était un symbole de défaite. Il ne comprenait pas, ça va servir à quoi? Jusqu'à ce que Dieu lui ouvre les yeux, qu'il comprenne que son salut reposait par la mort de Jésus-Christ à la croix. Le fait que Jésus soit crucifié, c'était son salut à lui. Parce que lui, c'était un pécheur perdu. Il a compris ça quand il a renié Jésus 3 fois. Il a compris que c'était un homme perdu. C'était un homme fini. Tant que tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi tu as du mal à comprendre l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se croient quelqu'un. Ils se croient fort. C'est pourquoi quand vous leur parlez de la croix, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais ça va servir à quoi? Parce que dans leur esprit, leur salut tient de leur bon comportement. Leur salut tient de leur force à eux-mêmes. Et quand donc vous leur dites, comme à Pierre, quand Jésus lui parlait, je dois souffrir à la croix et mourir à la croix, ils sont fâchés, ils disent, mais ça sert à quoi tout ce charabia? Ça sert à quoi tout ça? Mais le jour où quelqu'un comprend qu'il est fini, comme le monsieur qui était crucifié avec Jésus, il y en avait deux personnes crucifiées avec Jésus. Il y a une qui continuait à se défendre, qui continuait à jouer à l'orgueil parce qu'il n'avait pas encore compris qu'il était fini. Pourtant, il était crucifié. Donc, il y a des gens, malgré leurs conditions terrestres difficiles, parce qu'on croit que c'est seulement les riches qui ont une telle attitude. Il y a même d'autres personnes qui peuvent être à l'hôpital, alitées, continuer à penser que du fait qu'ils ont un chéquier, du fait qu'ils ont des maisons, ils sont encore importants. Du fait qu'autrefois, ils ont été docteurs ou professeurs, ils sont encore importants. Et de telles personnes, jusqu'au bout, continuent à refuser la grâce de Dieu parce qu'ils se disent, j'ai réussi ma vie, j'ai été professeur. Donc, ils ne se voient pas finis, malgré le fait que le corps les a lâchés. Ils se croient toujours quelqu'un. Et à cause de cet état, ils ne peuvent pas comprendre qu'on leur dise que Jésus-Christ a été crucifié pour eux à la croix. Cette explication ne peut venir que dans une personne, ne peut être comprise que par une personne qui se sent finie, qui sent qu'elle a échoué. Et c'est ce qu'a été Pierre. Lui qui refusait d'entendre parler de la crucifixion de Jésus, le jour où il a renié Jésus-Christ 3 fois, alors qu'il avait juré, « Seigneur, moi je te resterai fidèle, je suis fort, je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas intimider. » Mais le jour où il a renié le Seigneur 3 fois, il a compris qu'il c'était un homme fini, un faible, un perdu. Et il a pleuré. C'est pourquoi, bien-aimé, tant que quelqu'un ne se sent pas encore faible, tant que quelqu'un ne se sent pas encore perdu, il ne peut pas comprendre Jean 3,16. Nous devons prier pour la personne, que Dieu lui ouvre les yeux, qu'elle réalise sa perdition. On peut faire des discours très éloquents, mais ça tombe sur quelqu'un de fier, d'orgueilleux. Il va rien comprendre. Vous allez me dire, mais oui, mais il y en a qui, au contraire, disent que c'est à cause de leur souffrance qu'ils renient Dieu. Je souffre, c'est pourquoi je ne crois pas. Mais c'est des gens qui souffrent, pas à 100%. Ils souffrent, mais ils sont fiers d'autres choses qu'ils ont. Et une des choses principales qu'ils ont, c'est la vie. Le fait qu'ils vivent, ça s'appelle l'orgueil de la vie. Le fait de vivre, ça donne une sensation d'être puissant. Et ces gens-là, malgré le fait qu'ils peuvent être dans des situations difficiles, ils continuent à contester face à Dieu parce qu'ils ont la vie quand même. Et donc, nous devons prier que Dieu les brise pour qu'ils aient besoin du Sauveur. C'est pourquoi Israël n'a pas accepté Jésus. Parce qu'Israël se disait la nation de Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et tant qu'ils étaient fiers comme ça, ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un vienne être crucifié à la croix pour eux. Parce que ça faisait d'eux des pécheurs, des gens qui ont raté quelque chose. Pour que quelqu'un comprenne l'œuvre de la croix, il faut d'abord qu'il se réalise qu'il est fini. Ça a été le cas du voleur à la croix. Ça a été le cas de Zachée. Toutes ces personnes sont venues à Jésus parce qu'ils se sont dit, mais qui peut me sauver? Alors si tu te dis, mais oui, je veux bien, le Seigneur a manifesté son amour, mais moi je me sens malheureux, mais parce que tu n'as pas encore lâché. Tu es encore fier en toi-même. Tu es encore dans ton orgueil. Malgré les difficultés dans la vie, tu continues à te croire fort. Et c'est pourquoi cette vérité-là est voilée à tes yeux. Tu continues à te croire quelqu'un. C'est pourquoi cette vérité n'est pas évidente pour toi. Le jour où tu lâches prise, cette vérité va devenir évidente et ça va transformer ta vie. Maintenant, j'en viens à un autre point. L'amour du Seigneur a amené Jésus à la croix et à partir de là a ouvert la porte à toutes les bénédictions du ciel. De sorte que quand tu es dans cet amour-là, cet amour fonctionne, brise les barrières, les choses changent. Tu es récupéré par Dieu. Une vie nouvelle commence. Plongé dans l'amour du Seigneur. Plongé dans l'infini parce que c'est un amour infini. Ce n'est pas un amour limité. Beaucoup le comparent à des amours terrestres qui sont limités. C'est un amour infini. Quand tu es plongé dans ça, il n'y a plus de barrière. Tout est devenu possible. Nous ne prêchons pas sur cela par distraction ou par esprit intellectuel, mais nous voulons que les chrétiens vivent maintenant une vie sans barrière, baignés dans l'amour du Seigneur, comme les premiers chrétiens qui étaient prêts à donner leur vie. Parce que l'amour de Dieu les remplissant, ils étaient sans barrière. Or, un amour humain a beaucoup de barrières. On a entendu, il y a eu des problèmes dans un train. Les employés se sont enfermés. Ils ont laissé le passager. On tirait sur les gens. Ils se sont enfermés dans un local. Et ils ont laissé les passagers entre les mains du terroriste. Mais ces gens-là ne sont pas plus mauvais que nous. Mais on voit que l'amour humain est limité. L'amour humain est limité. Quand il y a des bruits d'armes, chacun prend sa direction. L'amour du humain est limité. L'amour de Dieu est infini. Il n'y a plus de barrière. Le Seigneur veut nous amener dans ça. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas compris cet amour illimité et plein. C'est pourquoi ils continuent. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Mais ils aiment le Seigneur de la mauvaise manière. Ils aiment le Seigneur comme on aimerait quelqu'un d'humain, comme ça se passe ici sur la terre. C'est pourquoi, dans leur fonctionnement, on voit beaucoup de barrières, des obstacles et des limitations. On ne voit pas la plénitude parce qu'ils n'ont pas non plus reçu l'amour infini. Bien-aimé, quand tu reçois l'amour infini de Dieu, toi aussi tu fonctionnes dans l'amour infini. C'est pourquoi les premiers chrétiens, ayant reçu cet amour infini, ayant accepté, ayant réalisé Christ avait donné sa vie pour eux, ben, ils étaient dans cet amour infini qui les a fait oublier la terre. Mais aujourd'hui, beaucoup se comportent en correspondance avec tout ce qui se passe à la terre. Un vrai chrétien dépasse tout cela. Il est dans l'amour infini de Dieu. Il ne croit pas en l'échec parce que l'amour infini de Dieu lui montre une pleine victoire. Il sait qu'à la croix, Jésus a pleinement triomphé de Satan. Cet amour-là le calme. Il se dit que si Dieu a laissé son fils souffrir pour lui, c'est que tout est devenu maintenant possible. Parce que tout le reste est inférieur au sacrifice de Jésus. Que ce soit la maison, que ce soit la voiture, que tout le reste qu'on peut vouloir pour se sentir heureux est inférieur à l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Donc le vrai chrétien, il se dit, mais si Dieu a laissé son fils mourir à la croix pour moi, tout le reste devient possible. Donc il est rempli maintenant. Vous savez, rien qu'en pensant ça, tu es rempli. Tu sais que maintenant, c'est fini. Christ a été crucifié pour moi à la croix. Pourquoi c'est écrit « Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau » ? C'est à cause de ça. Parce que quand tu réalises que le dernier acte, l'acte le plus difficile que Dieu pouvait faire, il l'a déjà fait maintenant, le reste. C'est ce que frère Paul explique dans Romains 5. Il dit « Il a fait déjà l'acte le plus difficile. » Donc le reste ne peut que suivre. Un chrétien qui est comme ça, il est maintenant animé du même esprit que le Seigneur. Il est prêt à offrir sa vie. Parce qu'au fait, il baigne dans la continuité du Seigneur. Il baigne dans le même esprit. C'est ce que l'on ne retrouve pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent d'abord toucher, prendre des choses et après servir Dieu. Alors que dans autrefois, les gens recevaient d'abord l'amour du Seigneur. Et ensuite, ils baignaient dans cet amour et les obstacles étaient brisés. En parlant bien aimé, sincèrement, je dis Seigneur, je ne sais même pas si je me fais comprendre, mais que ton esprit fasse comprendre. Jésus-Christ, la démonstration de l'amour de Dieu, ce ne sont pas des discours. Arrêtons avec des discours. Je vois beaucoup de gens faire des discours, faire des prières. Mais dès que Dieu leur demande un petit sacrifice, ils ne sont pas là. Il y a toutes sortes de raisons. C'est des discours. Un vrai chrétien n'est plus dans les discours. Il donne sa vie. Dès que Dieu leur demande un tout petit sacrifice, c'est des raisons, c'est des arguments. Un vrai chrétien a donné sa vie. Puisque Christ a donné sa vie, il baigne dans le même esprit. Il cherche à aider, mais il ne cherche pas à se faire aider, mais il cherche à aider. Parce que lui, il est déjà aidé par le Seigneur. Quand vous rencontrez un chrétien qui se plaint beaucoup, c'est qu'il n'a pas encore vraiment reçu l'amour du Seigneur. Un chrétien qui a reçu l'amour du Seigneur, il est libéré. Il est plein. C'est le Seigneur lui-même qui dit « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus faim. » Aujourd'hui, on voit des géniards à gauche, à droite. Des spécialistes de lamentation. Comme on dit en anglais « always complaining ». Donc tout le temps en train de se lamenter. Mais où est l'amour du Seigneur ? Quand on rencontre l'amour du Seigneur, tout se calme maintenant. Tout se calme. On est récupéré par le Dieu vivant dans ses bras d'amour. Maintenant, il ne reste plus qu'à partager cet amour aux autres. on peut te prendre tout ce que... Quand on entend de ce genre de commandement, on te gifle, tu donnes l'autre joue. On te prend un manteau, tu donnes l'autre manteau. Mais pourquoi de tels commandements? C'est des commandements réservés aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu. Ils en ont la capacité parce qu'ils sont remplis de l'amour de Dieu. Et pour eux, ce n'est plus difficile. Ils savent qu'ils peuvent donner le deuxième manteau. Dieu les aime. Mon sauveur m'aime. Quel ferme appui pour ma foi. Dieu les aime. Ils savent qu'ils ne manqueront de rien. Aujourd'hui, dès qu'on est, il y a un impair, tout le monde te conseille. Allez, réclame, réclame, réclame. Oh, bien-aimé. Ce qu'on doit faire, c'est faire la volonté de Dieu. Pas réclamer, réclamer, réclamer. Si Dieu veut qu'on réclame, d'accord, pour une autre raison, mais ce n'est pas pour, parce qu'on veut récupérer ce qu'on nous a pris. Parce que Dieu va nous rendre ce qu'on nous a pris. Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Quand on est rempli de cet amour, quand on se souvient de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, on est tranquille. Vous imaginez le voleur à la croix qui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras. » Paul qui persécutait les chrétiens, quand il a rencontré l'amour du Seigneur, il a dit « Oh, mais c'est ce qui me manquait dans ma vie. » La plupart d'entre nous, nous avons vu l'histoire de Khalid, l'Égyptien terroriste. Le jour où il a rencontré le Seigneur, il a commencé à embrasser tout le monde le matin. Tout le monde était devenu beau. Quand tu es rempli de l'amour du Seigneur, c'est toi qui donnes. Tu ne cherches plus des complications. On ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas fait cela, on ne m'a pas fait bisous, on ne m'a pas dit bonjour. Non, mon sauveur m'aime. Tu es rassasié. Quel ferme appui pour ma foi. Est-ce que tu connais ton sauveur? C'est ça, bien-aimé, je ne veux pas perdre du temps. Je veux parler de notre sauveur, Jésus. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, « Lorsque j'étais parmi vous, Corinthiens, je n'ai pas voulu entendre autre chose que Jésus-Christ crucifié. » C'est ça la prédication. C'est ça la transformation que Dieu a opérée dans l'humanité. Il a donné son Fils, de sorte que quiconque croit en lui... Et dans le bénéfice de cet amour-là, l'œuvre de Jésus change un humain. Dieu attend de nous maintenant que nous vivions le bonheur lié à l'œuvre de Jésus. Nos vies de tous les jours ne traduisent plus ce bonheur-là. Parce qu'on n'a pas saisi l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'on n'a pas saisi Jean 3,16. Beaucoup d'entre nous sont toujours compliqués dans leur fonctionnement. Pourquoi? C'est simple. C'est simple. Bien-aimé, je ne sais pas vraiment comment parler. On va prier. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous éclaires par rapport à ton amour. Démonté à la croix, nous voulons que tu nous éclaires parce que seul ton esprit peut faire comprendre des choses infinies.